Ça parle de vélo, ça parle de cyclisme, c'est le 140e épisode du Coup Tordu et il y a toujours pas de jingle, hein. On y va. On tire dans le tas direct, très content de vous retrouver pour la grande preview de Paris-Roubaix 2024, mais on va aussi parler de l'actualité vélo parce que c'est très très chargé, des interviews et des previews. Le Coup Tordu, un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés et j'ai pour vous réuni dans ce podcast le plus grand passionné de la place de Tours. C'est monsieur Latib alias Thibaut. Ça va mon Thibaut?
Bah écoute, physiquement oui. Ça va, on n'a pas à se plaindre nous, néanmoins moralement c'est dur hein, quand tu vois les bilans médicaux etc. de tous aujourd'hui c'est une journée qui est glaçante et démoralisante.
On va en parler hein, évidemment parce que les infos tombent au fur et à mesure au moment où on enregistre le podcast. On est le jeudi 4 avril 2024 et bien évidemment hein, on va reparler bien évidemment une chute qui voilà, ça sera l'un des faits marquants, on le sait, de cette année 2024 sur le tour du Pays Basque et bah dans la place également hein, le Coup Tordu en mode Dream Team Enzo alias Phoenix. Comment tu vas mon Enzo?
Bah un peu pareil que Thibaut, un peu sonné après cette chute. On a déjà eu la semaine dernière la grosse chute sur à travers la Flandre. Là, les images, honnêtement, alors j'ai pas vu en direct, hein, je bossais donc j'ai un peu regardé après. C'est-à-dire que j'ai été spoilé par le fait que tout le monde était conscient et j'ai été très content d'apprendre que tout le monde était conscient avant de voir ce qui s'était passé. Mais ça prend au cœur toujours. Hein, c'est voir que ce soit un cycliste ou un autre, voir un être humain comme ça allongé au sol qui bouge pas, on est très peu de personnes équipées pour supporter ce genre d'image, donc content de savoir que tout le monde est dans une situation stable et conscient en espérant qu'ils puissent se remettre le plus vite de leurs blessures.
Alors on va faire le bilan médical hein, Thibaut, donc au moment où on enregistre l'émission, on est le 4 avril 2024, il est 21h01, Thibaut tu reçois un petit peu les informations en temps réel impliquées dans la chute, principalement Jonas Vingegaard et surtout Jevine. Où on en est, qu'est-ce qu'on sait de précis à l'heure qu'il est mon Thibaut?
Alors du côté des IF, il n'y a rien pour que ce soit Shunkin et Beloki sur leurs réseaux sociaux. Du côté des chanceux, on va dire, on a Tesfacion et Primoz Roglic qui, eux, n'ont que des éraflures. Et Enzo le disait en pré-live, limite Roglic dans son malheur, c'est peut-être le plus chanceux de tous. Du côté de Vingegaard, on a les mêmes blessures que Wood van Aert, c'est-à-dire clavicule et côte cassée. Du côté de Remco Evenepoel, on s'en sort avec une clavicule et un omoplate qui risque d'être un peu plus compliqué au niveau de ce dernier. Et on a Steph Kras qui lui a un bilan assez lourd, deux poumons performés, deux côtes cassées, des douleurs aux vertèbres et le plus lourd c'est véritablement Jevine qui lui se sort avec un bilan médical qui est ma foi inquiétant. On espère le mieux pour lui mais quand tu lis actuellement que selon le tweet de son équipe qu'il a subi une fracture cervicale et deux fractures du corps vertébral de la colonne thoracique. Honnêtement, on va espérer le meilleur pour lui, mais enfin, tu sais que quand ça touche les cervicales, ça peut aller soit de l'état végétatif. Visiblement, il est conscient, donc il parle, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais tu peux aller du simple déséquilibre à la paralysie, à la tétraplégie. Donc on espère pas ça pour Vine, quoi.
Oui. Moi, un des derniers exemples en date qu'on a eu, c'était Nasser Bouhanni sur le Tour de Turquie. Et il a mis des mois pour s'en remettre et il s'en est jamais. Alors il a pu recourir, hein, il est redevenu coureur professionnel, mais enfin globalement ça a été entre guillemets un peu la fin de sa carrière. S'il n'y avait pas eu cette chute sur le Tour de Turquie, je pense qu'à l'heure qu'il est en 2024, Nasser Bouhanni serait très probablement encore coureur professionnel. Bon après maintenant il court, il est en bonne santé, ça va. Et en tout cas c'est ce qu'on souhaite à Jevine.
Je vais pas te mentir, mais au vu de la carrière de Jevine, au vu de ton bilan médical actuel, moi je serais lui, je sais même pas si je refoutrais un pied sur un vélo.
C'est vrai que
psychologiquement c'est dur.
Ouais, c'est bah oui. Puis on en avait parlé avec Guillaume Di Gradia. Ouais, Nasser aussi mentalement, ça avait été dur de ouais. Donc, mais là, c'est terrible. Bon, on espère évidemment que ça sera.
Non, mais Jeva, ouais. Il n'y a pas une année où il n'a pas fini à l'hôpital. Faut se rendre compte du bonhomme. Faut quand même avoir un moral solide pour remonter après chaque chute. Mais là, celle-ci, je pense que psychologiquement, elle va laisser des traces.
Enzo, tu nous disais juste avant qu'on allume le podcast et qu'on discute tous ensemble. Alors toi, il semble que tu as un ressenti, tu as l'impression que les coureurs commencent un petit peu, eux aussi, à se remettre. Alors ça va être très compliqué, hein, bien évidemment, de trouver des solutions. Je ne sais même pas s'il y a des solutions. Il y a probablement des choses à améliorer. Je voulais qu'on parle également de ce débat sur la chicane qui a lieu sur Paris-Roubaix ces dernières heures. Je vous avoue que j'ai pas trop compris. J'ai suivi peu de loin.
Honnêtement, ça peut rentrer dans la discussion globale.
Ça rentre dans la discussion globale. Voilà, on sait qu'il y a des choses à faire. Quand on lit un petit peu les publications, les tweets des uns et des autres, il n'y a pas vraiment de solution magique ou de remède miracle. Mais toi, Enzo, tu as mis un petit peu le doigt sur un truc. Tu as l'impression que certains coureurs commencent à remettre eux-mêmes les coureurs un petit peu en cause, j'ai envie de dire.
Ouais. Non. Pour très rapidement sur la chicane, c'est pas parce que les gens critiquent l'idée de la chicane qu'ils ne veulent absolument que rien ne change. Remplacer un danger potentiel par un autre danger potentiel, certes peut-être moins grave, mais danger quand même, c'est pas une solution. En fait, c'est le vrai problème de cette chicane, c'est qui n'est pas une chicane d'ailleurs, hein, mais c'est ça. C'est pas que les gens disent non, Paris-Roubaix, on n'y touche pas.
On va quand même resituer un petit peu, Enzo, pour les gens qui seraient pas au courant de ce qui se passe. C'est vrai que nous, on le voit avec nos algorithmes et on se le prend dans la tronche matin, midi et soir. Mais juste un petit peu pour resituer quel est le problème avec cette chicane. Je crois que c'est ils ont modifié un petit peu le parcours au niveau de la trouée d'Arenberg.
Ouais, alors en fait, à une vingtaine de mètres de l'entrée de la trouée d'Arenberg, ils ont organisé une sorte de virage à 180 degrés un peu bizarre, pour forcer les coureurs à freiner, et au lieu de taper direct la tête à 60 km/h dans la trouée, il devrait y rentrer au moins deux fois moins vite. Voilà. Le problème, c'est que si tu fais on va continuer de l'appeler la chicane. Si tu la mets aussi proche, les mecs vont quand même se battre à fond et freiner le plus tard possible pour l'aborder en tête. Parce que aborder la trouée d'Arenberg, qui est le secteur le plus difficile de Paris-Roubaix, avec des trous partout, honnêtement, je l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est pareil que de devoir grimper un trottoir tous les 4 cm sans t'arrêter. Je pense que c'est à peu près ça ce que ça doit faire sur plus de 2 km. Donc tu imagines que si tu passes à 60 km/h ou à 30 km/h, c'est plus ou moins facile. C'est-à-dire à 60 km/h, tu vas certainement avoir tendance à plus voler sur le pavé, à moins subir les trous, alors qu'à 30 km/h, tu vas beaucoup plus t'écraser sur ta machine. Certains mecs sont assez puissant et assez équipé pour gérer ça. D'autres non. Rentrer à 30 km/h dans la trouée d'Arenberg, ça va créer de vrais problèmes pour les mecs qui seront pas en tête du peloton. Ça va créer des gros trous. Honnêtement, je pense que ça va aussi créer des chutes. T'as des mecs qui vont se retrouver à l'arrêt. Alors, oui, c'est toujours mieux de tomber à 30 km/h qu'à 60, je suis d'accord. Mais à 30 km/h, tu peux aussi te péter la clavicule. Voilà. Donc, en fait, moi, ce qui me dérange avec ce virage, c'est que ça ne règle pas le problème. C'est que ça en crée un autre, certes, encore une fois, peut-être moins dangereux, parce que les coureurs ont l'air tous assez unanimes pour dire on préfère tomber à 60 à l'heure sur le bitume que sur le pavé, que je comprends. Mais ça ne règle pas le problème. Le vrai problème, et il est souligné dès le départ, c'est la vitesse d'entrée dans le secteur. Et la vitesse est un problème tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit sur Paris-Roubaix ou dans une descente ou à l'arrivée dans un virage, les mecs vont trop vite tout le temps, et les freins à disque n'aident pas là-dedans, parce qu'un frein à disque est beaucoup plus réactif et beaucoup plus performant que les freins à patins, donc les mecs freinent de plus en plus tard. En fait, il y a une vraie prise de conscience qui doit être faite par les coureurs eux-mêmes. On pourra faire tous les aménagements, quand je dis on, c'est pas moi, parce que je n'ai rien à voir là-dedans, c'est juste un avis de suiveur, comme tous les avis de suiveurs se valent. Tu pourras faire tous les aménagements que tu veux, tant que les coureurs eux-mêmes ne prendront pas conscience que le danger, ils le créent très souvent eux-mêmes. Une descente n'est pas dangereuse en soi. Une descente, elle est dangereuse à partir du moment où tu vas trop vite dans la descente. Un virage n'est pas dangereux en soi. Sauf si
L'exemple du Canaryberg, hein, la descente, elle n'est pas dangereuse. C'est les coureurs qui la rendent dangereuse.
Moi, si j'y vais.
Et la situation de course.
Bah ouais, moi si j'y vais dans le truc, je fais la descente. Je pense qu'il n'y a pas un monde où je tombe, sauf peut-être s'il pleut des cordes et que je ne sais pas rouler sur un vélo, mais parce que je n'irai pas aussi vite. Après, en fait, quand tu commences à dérouler le fil, il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte. C'est les coureurs, oui, mais pourquoi c'est les coureurs? Bah parce qu'ils ont peut-être la pression du DS derrière, et le DS, il a la pression des sponsors, parce que les sponsors, eux, ils veulent de l'argent, donc il faut les pour UCI. En fait, ça finit jamais, tu vois. Mais ça doit partir d'un certain point, et ce point de départ, c'est les mecs impliqués eux-mêmes, ceux qui mettent leur vie en jeu à chaque fois qu'ils montent sur leur vélo, les coureurs. Et à partir du moment où les coureurs vont prendre conscience que eux ont le pouvoir de changer les choses, parce qu'ils ont le pouvoir, les coureurs demain, ils disent « on court pas, il n'y a pas de course, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien ». Donc, si je peux, voilà.
Si je peux permettre un ajout sur la chicane, ce qui pose problème, c'est pas tant le principe de la chicane. La chicane, elle est acceptée par la majorité, que ce soit des coureurs ou des suiveurs. Le problème de cette chicane, c'est son emplacement qui est surproche de la trouée d'Arambert. Donc, forcément, ils vont arriver à une vitesse faramineuse dans cette chicane. Il y a aussi, sa distance en termes de longueur, c'est une pointe qui est très courte. Donc tu vas arriver, tu vas faire ton petit S en forme de pointe, là qu'il n'y ait pas de chute, j'y crois pas. Et en plus, elle est située juste après un passage à niveau. C'est évident qu'il y a des mecs dans le peloton qui vont braquer sur le passage à niveau, et faut pas être une lumière pour savoir que quand tu braques sur un passage à niveau, t'as de grandes chances d'aller au sol. Donc qui goûte le bitume, bon, ça, j'ai presque pas de doute si, malheureusement, la chute d'aujourd'hui n'a pas non plus mis un petit coup dans les consciences collectives, même du côté des coureurs de Roubaix.
Honnêtement, c'est possible, parce que là, tu vois, après la chute d'aujourd'hui, on a vu Bilbao dire que les coureurs doivent prendre conscience que le problème vient d'eux. Rudy Mollard aussi, je crois, il me semble avoir vu passer un message sur Instagram de lui qui dit que les coureurs doivent prendre conscience qu'ils sont aussi partie prenante du danger qui est créé. On a eu Maël Guédan, si je ne dis pas de bêtises, qui a posté un message avec une réponse de Madouas derrière qui lui aussi mettait en cause la vitesse des coureurs et notamment les braquets. Alors, je ne suis pas assez calé sur tout cet aspect technique, mais j'imagine que eux, plus que moi, donc s'ils le disent, c'est qu'il y a une part de vrai. Donc, voilà, c'est... J'espère qu'il va y avoir une vraie prise de conscience avant qu'il y ait un autre drame irréparable. Je veux dire, ça fait même pas un an que le pauvre Gino est parti et on a encore des chutes comme ça. Enfin, ok, aujourd'hui apparemment la route était pas top, il y avait des racines d'arbres qui sortaient de la route, ce qui fait que dans le virage c'était très dangereux. Tout n'est pas de la faute des coureurs non plus, je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a certaines situations qui pourraient être évitées beaucoup plus facilement si les coureurs eux-mêmes avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Regarde, l'exemple typique, Stephen Kung sur le chrono des nations, je crois, qui se fout la gueule en l'air tout seul dans les barrières. Je dis, mais pourquoi tu lèves pas la tête? Parce que si tu lèves la tête, tu perds quelques secondes parce que t'es plus aérodynamique. En fait, on arrive à un point où le bon sens disparaît complètement au profit de la performance pure. Et c'est très grave, c'est très très grave. Et comment tu veux gérer ça? Je veux dire, tu pourras faire tous les aménagements de parcours que tu veux, à partir du moment où le bon sens n'est plus la valeur première, c'est perdu. Je veux dire, je veux pas être fataliste, mais...
On peut citer un exemple de bon sens qui est un peu hors matière, mais qui va se rapprocher. Hier, c'était le Grand Prix de l'Escaut, c'est ça? Oui, c'était le Grand Prix de l'Escaut. L'approche du final, Kaden Groves, son comportement en tête du peloton est absolument scandaleux. C'est certes pas son métier, c'est tout un métier d'apprendre d'être poisson pilote. Mais quand tu te retournes sans cesse dans le peloton pour voir où est Philipsen, mais c'est un comportement qui est absolument accidentogène. Et ça, c'est aussi dans le gène des coureurs d'avoir une responsabilité quand tu es dans le peloton, quand tu es en tête de peloton, quand tu es en milieu de peloton, quand tu es en fond de peloton, quand tu es sur les côtés du peloton, quand tu remontes le peloton, quand tu descends le peloton, il y a toute une situation où là on rentre dans une autre matière, mais c'est reste de la matière comportementale du coureur.
Ouais, mais ça les poissons pilotes, c'est aussi un vrai problème. T'en as certains dont c'est le métier et qui savent exactement ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils ont fini, c'est-à-dire s'écarter et déranger le moins possible. T'en vois encore aujourd'hui qui vont juste faire les îlots directionnels en plein milieu du peloton, peut-être parce qu'ils n'ont plus aucune force pour s'écarter, plus aucune lucidité, ce qui est possible. Une fois que tu es à 120% et que tu lâches tout, tu vois tout blanc et juste t'arrêtes de pédaler parce que t'en peux plus. Mais t'en as d'autres où tu sens que le vice est un peu là aussi. Si je reste là, c'est-à-dire que derrière, je vais gêner les mecs et mon sprinter va peut-être gagner une petite seconde ou un quart de seconde qui va lui permettre de gagner la course. Ouais, mais si t'envoies tout le monde dans le décor derrière, genre, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, j'aime pas aller dans cette direction, mais est-ce que on devrait pas augmenter les sanctions? J'aime pas sanctionner, j'aime pas ce système de sanctions. Mais est-ce que ça pourrait pas aider à faire évoluer les mœurs? Je sais pas. Mais c'est au coureur de prendre conscience aussi du fait que le danger, très souvent, c'est eux-mêmes qui le créent. Mmh. On pourra toujours critiquer tel parcours, on pourra toujours critiquer une arrivée avec un rétrécissement au 200 mètres, un truc comme ça. Ok. Mais je suis assez retourné, un peu énervé aussi. Voilà. Alors que je n'ai rien à voir dans le business. J'aime pas.
Bon, après les coureurs se mettent en danger, Enzo. Bon, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, hein, mais les choses aujourd'hui, en dépit du bon sens, alors voilà, je vais peut-être faire un rapport qui est un petit peu tiré par les cheveux, mais il y a 25 ans, quand on a une génération de coureurs qui s'est empilée de l'EPO en veux-tu en voilà dans tous les sens, qui se sont fabriqués des cancers, je pense que à cette époque-là, les mecs ont pris beaucoup plus de risques que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est juste que, on va dire ce que tu disais, le dépit du bon sens a un petit peu changé de camp, on va dire, c'est un petit peu autre chose, mais il y a toujours eu dans le vélo historiquement des choses qui ont été faites en dépit du bon sens. Sinon, faut remonter quasiment aux années 80 ou même dans les années 80. À un moment donné, les coureurs, on les trimbalait d'endroit en endroit, de course en course. Des fois, il y avait des départs à 5h du matin. Il y avait eu le Tour de France qui s'était mis en grève d'ailleurs avec Bernard Hinault qui avait pris la tête du cortège. Je crois que c'était le Tour de France 1979. Donc en fait, historiquement, si on reprend toute l'histoire du vélo, on a toujours eu des problèmes les uns après les autres qui se sont déplacés, certains ont été partiellement résolus. Donc aujourd'hui, on arrive un petit peu avec ce problème de sécurité pour les coureurs. On voit aussi qu'en ville, c'est de plus en plus dangereux de faire des courses cyclistes, particulièrement en France où les aménagements, le mobilier urbain est... Alors c'est bien, hein, c'est pour la sécurité routière, mais c'est une dangerosité totale pour les coureurs. Donc le problème est multiple et Enzo, je pense que tu as mis aussi peut-être le doigt sur quelque chose. Est-ce qu'il faudrait pas aussi, on sait que le nerf de la guerre aujourd'hui, t'en parlais, c'est les points UCI, est-ce qu'il faudrait pas installer des malus et des bonus de points UCI pour, on va dire, les comportements dangereux? Thibaut, tu parlais de Cadem Groves à l'instant sur le Grand Prix de Lescaut. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un malus de points UCI quand un coureur se comporte de manière dangereuse, et aussi avoir des bonus pour les équipes qui se comportent bien, où on va pas chercher à être placé systématiquement, à vouloir avoir, parce que c'est simple, hein, tous les DS, s'il y a 20 DS qui disent « les gars, à cet endroit-là, c'est dangereux, vous devez être absolument placé », tout le monde va pas passer en fait. Hein. C'est ça aussi qui provoque des chutes. C'est le fait de vouloir mettre 160 mecs au même endroit, au même moment. Donc, faut aussi avoir un petit peu de raison peut-être de la part des directeurs sportifs. Est-ce qu'on pourrait pas aussi, au lieu d'avoir des sanctions et des malus, il en faut, mais aussi avoir des bonus pour une sorte de comportement du fair play pour les équipes qui se comportent bien? Je sais pas, Thibaut, est-ce que tu as des idées, des solutions?
T'as totalement raison. On peut aussi citer aujourd'hui la région Tour, où justement le lanceur de Marine Vandenberg s'est totalement rabattu. Il est parti sur le milieu, puis après il s'est rabattu sur la droite de la route où tous les sprinteurs se lançaient. Il a failli créer une situation absolument dangereuse avec Brian Coquard. Normalement, c'est le type de situation qui mériterait une sanction.
C'est un miracle. Hein. Et Coquard, c'est un miracle qu'il se foute pas dans la barrière. Vu comment le mec vient se rabattre sur lui, alors. On va dire, ça a avantage d'Ainese qui a pu partir sur la gauche et gagner sa course.
Hein, là, t'es bien là. Là, t'es bien.
J'en rigole parce qu'il n'y a pas eu d'accident derrière.
Mais ça aurait pu être dramatique. Hein. Il aurait pu avoir des hommes au sol.
Tu mets un mec moins habile que Coquard sur un vélo. Le gars, il suffit qu'il prenne peur, il met un coup de patin et ça envoie tous les gars derrière lui par terre. Hein. Donc, non, c'est. C'est aberrant. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais, Vincent, sur les DS qui mettent la pression pour être placés à tel ou tel endroit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le soir de sa victoire sur À travers la Flandre, il y a Matteo Jorgensen qui avait posté ses notes de téléphone sur les points chauds de la course d'À travers la Flandre. Et notamment sur la partie dans la descente du Canaryberg, où il y était écrit, alors je vais le dire de mémoire, donc je peux peut-être me tromper, donc excusez-moi par avance, fight like hell, pour le positionnement. En gros, fais tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir, pour être positionné à cet endroit-là. Et c'est l'endroit où Wout van Aert s'est pété la gueule. Du coup, genre... C'est typiquement l'exemple qui te montre que les coureurs créent le danger. Parce que tout le monde sait qu'à cet endroit-là, il faut le faire. Alors, est-ce qu'on le retire complètement, comme ils l'ont fait sur le Tour des Flandres ? Ce qui est une solution. Et honnêtement, moi, si demain, ils disent « Ok, trop d'Arambert, trop dangereux, on retire », est-ce que, pour vous, ça enlève le fait que ce soit Paris-Roubaix ? En sachant qu'il y a eu
plus si longtemps. Hein.
Non, la trouée, elle est arrivée fin des années 60. Il y a eu plus d'éditions sans la trouée qu'avec la trouée. Ouais, bah... Et je suis désolé, avec ou sans la trouée, ça reste Paris-Roubaix. Ça ne devient pas d'un seul coup une balade de santé.
Après, le parcours était quand même différent. On plaçait plutôt du côté ouest du Pas-de-Calais. En gros, à 30-40 bornes en parallèle de la course qu'on va avoir.
D'accord.
Qu'on va avoir dimanche, et c'est Jean Stablinski qui va voir les organisateurs et qui dit, bon les gars, moi quand j'étais un tio, il y avait un passage qui était, voilà, et c'est mythique, okay, ça fait partie de l'histoire.
Ça fait partie de l'histoire depuis 1968. Et Paris-Roubaix,
ça fait partie de l'histoire depuis qu'on est né, de toute façon.
Oui.
Non, mais bien évidemment. Mais genre, Fausto Coppi a gagné ses Paris-Roubaix sans la trouée d'Arambert. Et je pense pas qu'on dise que, ah bah non, il va vraiment pas plus que ceux qui l'ont gagné avec la trouée.
Si t'es dans un objectif 100% sécuritaire, oui, il vaut mieux l'enlever. Voilà, mais bon, de toute façon, dans tous les cas.
Bah oui, bah non, c'est ça. Bah, je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est ça. La vraie question est là. Arrêtons d'inventer des fausses solutions qui sont quand même dangereuses, genre un virage à la con, et enlevons-la. Et c'est pas grave. Genre, le mec qui va gagner Roubaix demain, s'il n'y a pas la trouée, il va pas dire « Oh putain, je suis un vainqueur au Roubaix ». Bah non, frère, t'as gagné Roubaix. Peu importe. Peu importe. Et là, c'est une vraie solution. Tu enlèves le truc dangereux. C'est tout. Comme on est capable d'enlever les descentes dangereuses dans un grand tour quand il pleut. Bah, le mec a quand même gagné son étape. Et c'est pas grave. Donc, il y a toujours une solution. Il faut juste que... il faut accepter les conséquences de tes choix. C'est tout.
En tout cas, là du côté de l'UCI, il y a du travail. On a discuté un quart d'heure ensemble. Il y a des idées qui valent ce qu'elles valent. Hein. Vous aussi, à l'écoute du podcast du Coup Tordu, je suis sûr que vous avez vous-même des idées. Faut écouter, je pense, les coureurs qui sont les premiers concernés. Et il est évident qu'il va falloir absolument faire quelque chose. Mais même s'il y avait des choses à faire, est-ce qu'aujourd'hui on aurait évité la chute?
De toute façon, tu pourras jamais l'éviter. Voilà. C'est comme le principe de la trouée d'Arambert. Tu peux la ralentir avec une chicane beaucoup plus propre, ça on est d'accord. Tu peux la sécuriser un peu mieux, ça on est d'accord. Mais de toute façon, c'est le risque inhérent au pavé, j'ai envie de te dire. Le pavé, tu peux chuter. Le pavé, tu peux crever. Le pavé, tu peux tout perdre, comme tu peux tout perdre. Pourtant, tu vas pas non plus enlever toutes les descentes. Tu vas pas éliminer toutes les étapes de sprint parce qu'un sprint est par nature accidentogène.
Non, mais après, ce qu'on voit parfois sur certains sprints jugés dangereux, où on dit aux coureurs à 3 km de l'arrivée, vous pouvez tous vous relever et c'est bon. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait institutionnaliser sur absolument tous les sprints? Alors après, il y a peut-être aussi une petite notion d'inéquité sportive sur les grands tours où les mecs qui jouent le classement général vont pouvoir se relever à 3 km de l'arrivée et on va dire avoir une récupération un peu meilleure que les mecs qui vont charbonner jusqu'à l'arrivée. Mais de toute façon, les mecs des grands tours ne disputent pas les sprints massifs et voir simplement 30-40 mecs aller se disputer la gagne. Et là, on limite quand même énormément les risques.
Excuse-moi, je ne trouvais plus le bouton. Oui, mais honnêtement, ça rajoute tellement de questions derrière. À partir de quand tu considères qu'à 100%, ça va être une étape où ça va arriver en sprint massif? Il peut y avoir des coups de bordure. Il peut y avoir, enfin, tu vois, C'est toujours très compliqué. Honnêtement, s'il y avait une solution simple, j'espère qu'en 2024, on l'aurait déjà trouvée et adoptée.
Maintenant, je pense qu'il y a mieux à faire que ce qui est fait à l'heure qu'il est. Il y a quand même, j'ai l'impression, une grosse marge de progression. On voit...
En fait, il y aura toujours une marge de progression, de toute façon.
Mais tu vois, par exemple, si tu dis, au lieu des trois, la règle des 3 km, ça devient une règle de, je ne sais pas moi, 6 ou 7 km, bah, à 6 ou 7 km, les équipes de leaders se laissent décrocher, elles restent à l'arrière du peloton. Mais au moins, ça fait 2, 3, voire 4 équipes en moins qui essayent de frotter à l'avant en plus des équipes de sprinters. À 6 km de l'arrivée, il laisse normalement assez de temps pour que les équipes de sprinters se mettent en place. Et quand tu as déjà 3-4 équipes en moins, ce qui fait au moins, et je suis gentil, 12 bonhommes en moins qui essaient de se battre pour la première ligne, tu réduis déjà fortement la tension et les frictions à l'avant. Donc est-ce que reculer cette règle des 3 km et la mettre à 6 ou 7, est-ce que ça changerait quelque chose? Possible. Honnêtement, je pense qu'on a un point où ça vaut le coup d'essayer. Et peut-être que ça changera quelque chose, peut-être que ça ne changera pas. Mais encore une fois, ça ne changera pas si le coureur décide que ça ne doit pas changer. Parce qu'ils disent, bah, 3 km ou 6 km, peu importe, il faut qu'on se batte. Soit. Et je comprends, honnêtement, c'est difficile de leur en vouloir aussi, parce qu'ils ont certainement une pression derrière. Et quand tu veux gagner, bah, tu fais tout pour gagner. Tu fais tout, et si tu es prêt à mettre ta vie en jeu, bah, que tu as envie de dire, c'est ton problème. Le problème, c'est que quand, si toi, tu décides de mettre ta vie en jeu, les mecs derrière toi n'ont peut-être pas décidé de faire pareil. Tu vois, donc si toi, t'es jusqu'au boutiste, mais que tu crées une chute massive qui engage des mecs qui, eux, avaient décidé d'être un peu plus tranquilles parce que, bah, ça me regarde pas. C'est le problème du peloton. C'est le problème de rouler avec des mecs. Tout le monde n'a pas le même objectif. Tout le monde n'a pas la même aversion ou non, à la peur aussi. Parce que, bon, un sportif professionnel, c'est en général pas fait du même bois que l'être humain lambda, que ce soit un cycliste ou un autre. J'ai en tête des mecs comme Niki Lauda, comme Alex Zanardi. Ces gens-là, il t'arrive la moitié de ce qui leur est arrivé, tu ne remets pas le pied dans une Formule 1 ou tu ne refais plus de sport jamais de ta vie. Et ces gens-là, quelques mois plus tard, ils étaient repartis, mais parce qu'ils ne sont pas faits comme nous, en tout cas comme moi. Voilà, je vais parler pour eux, ils ne sont pas faits comme moi. Donc j'ai du mal à vraiment appréhender comment c'est possible après quelque chose d'aussi grave de pouvoir revenir et être encore plus fort. Et dans un sens, je respecte, mais j'ai pas envie non plus d'idolâtrer l'aspect guerrier de la chose, qui pour moi est assez étrange et assez morbide. Tu vois, de dire c'est des guerriers, les mecs tombent, ils se relèvent. C'est dangereux. Roglic hier qui se fait ausculter pendant 8 secondes par le médecin. J'ai combien de doigts? 6. Ok. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Non, enfin, non. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que le tour du Pays Basque vaut vraiment le coup que tu repartes rouler avec une potentielle commotion cérébrale? Il n'en avait pas au final, tant mieux. Mais non, je ne sais pas. Il y a des choses qui pour... Je vais revenir là-dessus, mais le bon sens doit primer.
Alors on va basculer sur la preview de Paris-Roubaix. Est-ce que on fait quand même un petit truc? Moi, je vous avoue que là, pour la 5e étape du tour du Pays Basque.
Non, honnêtement, complètement,
à poil là. Je vous avoue que je pense que le peloton va avoir un peu la tête à l'envers demain.
Voilà. Même pas envie. Honnêtement, pareil, j'arrête.
Aucune envie. Je vais regarder juste comme ça, mais vraiment aucune envie.
Ouais.
Il y a la notion de plaisir derrière, tu vois, et le plaisir, sur cette course, malheureusement, il y est plus. Oui, il y a maintenant peut-être une situation au classement général qui est beaucoup plus resserrée, avec des coureurs qui sont dans un niveau beaucoup plus resserré, qui sont pas du niveau des fantastiques et qui ont un shot pour gagner leur première course World Tour pour certains. Peut-être qu'on va peut-être mettre fin à une disette World Tour au niveau des équipes françaises, au niveau des coureurs français.
Tu vois qui là? Vauclin?
Bah, peut-être, hein. Vauclin, ah ouais. Là, sur ce type de terrain, il va peut-être nous rapporter notre première course World Tour depuis un moment. Mais non, il n'y a aucune excitation du côté de mon côté, en tout cas.
Et aucune volonté moralisatrice, hein, honnêtement. Les gens qui veulent continuer à regarder, qui veulent continuer à prendre du plaisir, chacun a sa sensibilité, il n'y a aucun jugement derrière. mais je suis du même avis que toi.
Tu sais pas comment réagissent certains, tu vois. Voilà. Tu vois une équipe qui est marquée, comme par exemple les Emirates. Quand tu vois le bilan, par exemple, de Jevine, certes, ils ont quand même des options tactiques. Et pour moi, si je devais me prononcer, tu vois, sans regarder les conséquences qu'il y a eu de la chute, ou sans, en l'évitant totalement, je me dis que les Emirates, tu vois, ils ont quelque chose à jouer tactiquement, que ce soit avec McNulty ou Del Toro, mais enfin, tu sais pas comment ils sont marqués dans leur chair et surtout dans leur esprit.
Oui, bah ça peut être aussi...
Ça peut te doucher totalement. Hein.
Oui, ou l'inverse, t'as ton copain qui est à l'hôpital, qui est mal en point, et tu te dis, allez, si je peux faire un millième ou un petit truc pour essayer de lui redonner le moral, je peux aussi, ça peut être aussi un axe de motivation, mais le truc, c'est que sortir une analyse cohérente et factuelle par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste hyper compliqué, en fait. C'est voilà, comme tu le dis, Thibaut, tu sais pas quels sont les leviers psychologiques des gars. On peut aussi avoir demain, il peut y avoir pas de course, il peut y avoir un peloton qui manifeste demain, et ça serait légitime, qui bon, voilà, pour la sécurité des coureurs, pour tout ce qui se passe dans le peloton actuellement, en signe de protestation, on peut aussi avoir demain une grève des coureurs. C'est aussi une possibilité.
Oui, il y a des moyens qui peuvent être en place pour justement faire un peu plus de sécurité. Adam Hansen travaille énormément de ce côté-là. Tu le vois qu'il a mis en place sur le Tour de France des signaux sonores dans les descentes. Il a mis en place des boudins, par exemple, dans cette descente de l'Alose vers l'Altiport. On a mis en place du côté des classiques ces barrières Beauplan qui sont beaucoup plus sécurisantes et en cas de chute qui causent beaucoup moins de dégâts que ces barrières métalliques. Il y a plein de choses à faire, mais il y a plein de choses à faire aussi du côté, que ce soit du matériel et des coureurs. On parle énormément des freins à disque dans une descente, et c'est Antoine Besson qui le souligne à raison sur les réseaux sociaux. Bah, tu freines plus tard, et qui dit freiner plus tard, bah, dit prendre beaucoup plus de vitesse aussi, et prendre aussi beaucoup plus de risques dans les virages. Le frein à disque, on peut aussi amener beaucoup plus de vitesse parce qu'il y a beaucoup plus d'aérodynamisme, tu vois. On peut parler énormément de choses, du braquet comme Madouas, des oreillettes comme certains. Enfin, il y a plein de choses à faire évoluer, à mettre sur le tapis, et surtout à réfléchir.
Bon. Et surtout, je pense qu'un jour, il va falloir vraiment se pencher sur ce Tour du Pays Basque en particulier. Parce que c'est pas possible. C'est pas la première fois.
L'Espagne au Gobla, alors, hein, tu peux rajouter.
Ouais, non, mais ça. Hier, l'arrivée, est-ce que vous avez remarqué le dos d'âne qu'il y a à 10 mètres de la ligne d'arrivée? Là, tu mets, genre, pourquoi? Pourquoi tu mets la ligne après? Raccourcis l'étape de 150 mètres, je sais pas, fais quelque chose. Non, tu mets la ligne 10 mètres après un dos d'âne. Mais c'est pas grave. Et l'organisation propose ça, et l'UCI valide. Il y a des mecs derrière qui vérifient et qui valident ça. Moi, c'est ça que je trouve fou. C'est que c'est validé. Personne ne trouve rien à dire.
Ce qui est encore plus fou, c'est que, tu vois, cette descente, des coureurs locaux la connaissaient, on sait qu'il y a des racines. On a aussi eu, bizarrement, tu vois, juste avant le passage du peloton, le passage de l'échappée avec Mathieu Borgodeau qui fait un tout droit, tu vois. Il y avait quand même des signes d'alerte.
Ah oui, 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 ça c'est sûr.
Bien sûr.
Ça c'est, oui, il fait, ouais. Là, c'est... On va dire, ouais, il y a peut-être eu, même si ça va extrêmement vite, hein, il y a peut-être eu un petit trouage à ce niveau-là, parce que il y a eu, effectivement, hein, Mathieu Burgodeau qui a été faire un petit tour dans le, alors il s'en est bien sorti, hein, il s'en est très très bien tiré, mais bon, il a été faire un petit tour dans le décor, j'ai envie de dire.
Bon, les gars. Je peux corriger un truc. Ouais, j'avais dit Beloki pris dans la chute, mais son père avait tweeté, j'avais pas vu, que son fils n'a pas du tout été pris dans la chute.
Ok. Parfait. Le fils de Joseba Beloki, présent sur ce Tour du Pays Basque. On va basculer sur la grande preview de Paris-Roubaix qui a lieu dimanche. Donc on a parlé du fameux virage en épingle de la trouée, de l'entrée de la trouée d'Arambert. On va parler plus généralement du parcours. Enzo, bah, je vais aller vers toi. Est-ce qu'on est sur un parcours quasiment similaire à la dernière édition, ou en dehors de ce virage de la trouée d'Arambert, on a d'autres modifications?
T'as une ou deux petites modifications, mais honnêtement, qui ne devraient pas avoir un impact conséquent sur la course. C'est sur des secteurs,
des en tout secteurs début.
En amont. Ouais, donc non, on va dire que les points stratégiques, les points clés de la course sont les mêmes et à quelques centaines de mètres près, au même endroit que le final. Donc voilà.
C'est, en gros, la modification intervient entre les secteurs 27 et 25. Avant, tu avais un secteur de plus et tu passais pas forcément par ces secteurs, ou du moins pas forcément dans ce sens-là. Et ça change juste là, sinon le reste, c'est un copier-coller comme chaque année.
Au niveau de la météo, Thibaut, qu'est-ce que ça donne ?
Vent favorable quasiment toute la journée, un vent de sud-sud-ouest, on va partir de 17 km heure en début de journée et on finira sur quasi 23, 20, tout dépend le moment, mais ça va être un vent, j'ai envie de te dire, qui est intéressant. Le vent est intéressant dans Paris-Roubaix, surtout quand il est de manière latérale dans les secteurs. Là, on a quand même un vent portant qui encourage, on va dire, les offensives. Et si tu regardes le secteur où ça va être peut-être un peu plus vent de côté, on est plus sur les secteurs qui vont être déjà après la Trouée d'Orenberg et après le secteur de Tilloy les Marchiennes, pardon.
Ouais, donc,
c'est plus, je crois, le secteur qui va être le plus vent de côté, ça va être Beuvry-la-Forêt-Orchy. Mais c'est pas un secteur qui va être dans l'absolu décisif. Par contre, si on a un vent qui va être assez défavorable dans cette première partie de Mont-Saint-Pével et dans sa dernière partie, au milieu, on aura un vent latéral et juste après, dans la partie faux plat, on aura un vent plein cul. Donc, à mon sens, si tu dois dégager un secteur de course où ça va être clé, en dehors, évidemment, à cause de cette chicane de la Trouée d'Arenberg où les écarts vont être, à mon sens, plus grands qu'à l'accoutumée. Donc, le secteur de la Trouée d'Arenberg sera déjà un premier secteur décisif. Le secteur de Mont-Saint-Pével risque de l'être, lui, encore plus juste après dans la course.
Merci, Sébastien Follin.
On va tout de suite basculer sur les électrons libres disponibles donc sur SciLimit. SciLimit, le sort art du vélo. Je vous rappelle qu'il y a un parrainage pour intégrer SciLimit, coût tordu 0 avec le chiffre 0. Il y a une épreuve qui est ouverte sur SciLimit spécifiquement pour Paris-Roubaix. Épreuve gratuite en Ligue 4. En Ligue 3, vous avez juste besoin d'un coureur payant que vous pouvez trouver à quelques centimes. Donc voilà, SciLimit, le sort art du vélo, coût tordu 0, chiffre 0. Pour intégrer le jeu, et vous êtes de plus en plus nombreux à intégrer l'aventure et à passer par notre code de parrainage, et ça fait super plaisir, ça nous rapporte des petits points de XP et on est bien content. Alors il y a quelque chose qui rapporte beaucoup de points sur SciLimit et qui vous permet de vibrer aussi sur le départ de la course, parce que c'est vrai que quand on fait du pari sportif, souvent on vibre à la fin de la course. SciLimit, en cherchant à savoir qui sera dans l'échappée matinale, ça vous permet également de gagner des points sur SciLimit et donc de gagner des concours. Donc on va s'intéresser à ces fameux électrons libre, à une différence près, c'est que dans énormément de courses et sur quasiment toutes les classiques, quand on cherche à savoir qui sera l'électron libre de manière générale, 98% du temps, 99% du temps, l'électron libre, le mec de l'échappée matinale ne fait absolument rien, sauf que là, Thibaut, sur Paris-Roubaix, chaque année, tous les ans, on retrouve des mecs qui prennent l'échappée matinale, qui à minima finissent dans le top 10, voire sur le podium.
Ouais, c'est vrai, c'est une course qui sourit aux audacieux. On peut se dire du côté des équipes que si on en met un devant, ça peut aller très loin. Tu peux être rattrapé et tu peux tenir. Et puis, il y en a un qui en a fait un peu les frais du côté de la Belgique, puisqu'il s'est fait battre par une échappée matinale. La victoire de Mathieu Heyman est issue d'un mec de l'échappée, justement. Et Tom Boonen, je pense que du côté de la Belgique, on regarde encore le mur.
Ouais, on peut rappeler que Nils Polit également, l'année où il termine deuxième derrière Peter Sagan, était également parti dans l'échappée matinale tous les ans.
Herbert Vermeersch.
Oui, totalement, oui. C'était la victoire de Sonny Colbrelli. Avec,
2021,
ouais. Ouais, avec Van Der Poel qui fait 3. Il était également parti dans l'échappée matinale. Donc,
en sachant que Moscon devait gagner s'il ne crève pas et qu'il ne tombe pas en étant parti dans l'échappée matinale.
Donc, y a vraiment des coups stratégiques à jouer. Toi, Enzo, est-ce que tu vois des noms, des petits noms comme ça qui pourraient tenter le coup de loin et qui pourraient peut-être mettre la balle au fond, ou en tout cas mettre la balle au fond pour l'échappée matinale? C'est top 10 hein, pour moi.
J'en parle depuis 10 jours désormais.
Ah.
Et je suis convaincu que son équipe va continuer sur sa lancée d'être offensive et qui sera la carte offensive au centre offensive. Et pour moi, c'est Jonathan Milan.
J'en suis sûr.
Mais mon royaume pour Jonathan Milan dans l'échappée matinale. Mon royaume entier. Qui vaut pas grand-chose, mais tout de même. Je veux le voir tenter. Je veux le voir tenter parce que je suis persuadé qu'il a les qualités pour aller au bout. J'en suis vraiment persuadé.
Thibaut, toi, ouais.
On discutera un peu plus longuement des coureurs après, mon idée est arrêtée.
Thibaut, toi, t'as des noms comme ça qui te viennent en tête?
Au vu de la forme, par exemple, d'un Nils Ekhoff, on sait en plus qu'il a gagné en espoir, je partirais bien de son côté, du côté des DSM. Après, j'avais peut-être une idée du côté du Unox, mais au vu de ses performances, est-ce qu'un Jonas Abrahamsen, on le laisse partir? Peut-être que Fredheim, lui, serait peut-être un peu plus en vue du côté de cette carte électron libre du côté des Unox, pourquoi pas.
Moi, j'ai une question.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va sentir qu'il y a quand même une opportunité d'aller faire quelque chose et qu'ils vont être beaucoup à toquer à la porte de l'échappée et qu'elle va mettre du temps à se mettre en route, d'autant plus avec le vent favorable.
Alors moi j'ai une question à vous poser parce que moi j'ai un électron libre en tête qui est aussi qui sera aussi mon pari victoire top 3 en partant justement sur ce scénario de l'échappée matinale, mon stagiaire Riley Sheehan de Paris Tour. Alors je le vois pas du tout en mode, on va dire en mode GC, parce que je pense que c'est une course où il faut de l'expérience quand on joue avec le peloton. En revanche, sur un scénario d'anticipation, pour moi il a la caisse. Il a fini 13e récemment du Tour des Flandres. Est-ce que pour vous, un mec comme Riley Sheehan avec le numéro qu'il a fait sur Paris Tour, est-ce que potentiellement il peut avoir un bon de sortie ou pas? Enzo, qu'est-ce que t'en penses?
Si Riley Sheehan n'a pas de bon de sortie, je pense que personne n'a de bon de sortie. Hein.
Bon, ça me confirme.
Si ça va le chasser lui, je pense que personne n'a le droit de sortir. Là, par contre,
Thibaut, qu'est-ce que t'en penses?
Non, je suis d'accord. L'intérêt, c'est pas tant de voir les mecs qui vont être en échappée que de filtrer aussi leur nombre, tu vois. Bon, évidemment, tu vas pas laisser, si tu vois des noms qui sont ronflants, tu vas les laisser avec le moins de coureurs possible, mais Riley Sheehan, c'est pas dans l'absolu surcontraignant. On sait, ça va être un peu plus compliqué pour l'Alpecine de contrôler ce type de course, mais non, c'est pas forcément un nom que tu vas dire non, lui il y va pas, et c'est un nom catégorique.
Alors moi je vais juste adresser un petit message aux amis qui jouent sur Sky Limit. La carte unique de Riley Sheehan va être mise aux enchères ce vendredi 5 avril aux alentours de 20h il me semble, 20h-21h. Le record de la carte unique la plus chère sur Sky Limit, c'était celle de Corbin Strong qui était parti chez notre ami Thomas Gino Brother. C'était juste avant le Tour de France 2023. Alors ça va faire marrer les mecs qui jouent sur Sorare, hein, c'est-à-dire que 238 balles pour une carte unique sur Sorare, je veux dire, même un défenseur coréen de Ligue 2 remplaçant, c'est minimum 1000-1500 balles en carte unique. Donc vous voyez que sur le vélo, on est encore sur des prix largement en dessous de Sorare, et y compris sur des gouttes. Moi, pour cette carte unique de Riley Sheehan, je suis prêt, voilà, je vous passe l'info les copains, amicalement, je suis prêt à aller au-dessus des 238$ de la carte unique de Corbin Strong. Donc, ceux qui veulent, je dis, vous pourrez avoir Riley Sheehan, mais faudra mettre un prix supérieur au mien si vous voulez. Donc voilà, c'est juste un petit message personnel pour les copains qui jouent sur Sky Limit. Et donc, pour revenir à la course, Thibaut, Il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, on avait vu Ineos qui avait initié un coup de bordure dans la plaine du côté de Compiègne. On a vu que Mathieu Van Der Poel, sur le Tour des Flandres, il a passé la première moitié de la course à rester à l'arrière du peloton. Et il a bouffé pendant toute cette partie-là pour justement éviter les fringales et avoir suffisamment de jus pour terminer la course. Et on a vu comment il a terminé le Tour des Flandres. Est-ce que on va, avec ce vent favorable en plus, est-ce qu'on peut pas avoir à nouveau un coup de bordure et on va dire quelque chose qui partira à 200 bandes de l'arrivée? Parce qu'on avait vu, je crois que c'était en, je sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2022, on avait vu que ouais, ça avait mis Van Der Poel et Van Aert un petit peu dans la sauce.
Ah ouais, c'était les Ineos qui avaient mis le feu à la poudrière. J'ai envie de te dire, sur le vent actuel, on est à la limite acceptable, donc c'est pas impossible. Maintenant, si on est sur un vent qui est plus proche des rafales que du vent moyen, honnêtement, oui, ça, c'est pas impossible de les lider. Donc, faudra forcément être un peu plus alerte, mais il faudra voir comment ça souffle au départ, surtout. Si ça reste du vent moyen à 19 km/h, oui, ça peut péter à 20, tu vois, mais c'est pas non plus. Faut quand même des circonstances qui font que ça pète, quoi.
Mmh. Enzo, mettre à mal la Alpecin en les torpillant d'entrée, ça te paraît un scénario envisageable?
Alors, je vais déjà commencer par faire mon mea culpa, parce qu'il faut savoir reconnaître quand on a eu tort. J'ai dit que la Alpecin était faible et qu'il ne pourrait pas contrôler le Tour des Flandres. J'ai rarement eu aussi tort que ça.
Non.
Ils ont été parfaits.
Non,
ils ont été tactiquement parfaits.
Ils sont restés calmes. Ils ont écouté le podcast Le Coup Tordu, donc ils ont anticipé ton scénario. Mais à un moment donné, quand ça part à 15, à 83 km de l'arrivée, et que pendant quelques minutes, Mathieu Van Der Poel se retrouve tout seul, et qu'on a les Jorgensen et compagnie qui sont quelques secondes devant, bon, on voit Van Der Poel qui reste extrêmement calme, mais l'espace de 5 minutes, je me dis putain, il avait raison, quoi.
Honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, allez. Peut-être que j'ai raison. Et d'un seul coup, ça rentre à 2-3 derrière. Et Pedersen qui continue à faire n'importe quoi. Tu fais, allez, c'est parti. Passe pour un con. Non, j'ai eu tort.
Non. Enfin, je veux dire, quand on voit comment ça s'est passé, oui, tu donnes l'endroit où le coup part. Voilà. Tu dis, à cet endroit-là, ça peut partir. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a des tentatives. Donc, c'était pas si con que ça, quoi.
Non, mais la Alpecin était bien plus forte, que ce soit physiquement ou même psychologiquement et tactiquement que ce que je pensais. Voilà, donc mea culpa là-dessus. Par contre, on a bien vu encore une fois que sur le Tour des Flandres, le meilleur s'impose, parce que le tracé est fait pour, hein, avec les monts et tous ces trucs-là. Sur Paris-Roubaix, c'est pas le cas. Et je vais peut-être encore avoir tort, mais pour moi, Alpecin ne pourra pas contrôler du début à la fin, et Van Der Poel ne pourra pas rentrer tout seul. Et ça, par contre, ça s'est déjà vu. Si on revient en 2021, l'année où Moscone est seul en tête, derrière, on a Van Der Poel, Colbrelli, Vermeersch et c'est pas Hugo Hull. Enfin, il y avait un Canadien qui tombe.
C'est possible.
Non, c'est pas Hugo Hull. Mmh. Il y avait un Canadien qui est avec eux et qui tombe. Boivin, c'est peut-être Boivin. Mmh. Je sais.
Je m'excuse.
Ils étaient 4 derrière, et à 4, ils n'arrivaient pas à prendre du temps sur Moscone qui était échappé depuis le matin. Ce qui est la preuve que tout Van Der Poel qu'il soit, si on ne roule pas avec lui, je ne vois pas comment il peut reprendre du temps, enfin assez de temps, à des mecs qui seront devant. Ou alors ça voudrait dire qu'un de ses équipiers doit se sacrifier, donc Philipsen, qui n'est pas forcément non plus le meilleur rouleur du monde, enfin le plus équipé pour rouler comme ça en chasse-patate. Donc je pense, et je suis un peu plus persuadé, demain c'est plus vraiment un... basé sur des faits que sur une conviction propre. Dimanche, excusez-moi.
Mmh. Bah, ceux qui vont écouter le podcast samedi, Enzo, c'est bon, hein, t'inquiète. Hein.
Parfait, alors. Que Alpecin peut être piégé. Parce qu'on l'a vu, par contre, ce qui m'a fait plaisir sur le Tour des Flandres, c'est que les mecs, jusqu'à 40 ou 50 bandes de l'arrivée, quand Van Der Poel attaquait, personne ne courait pour la deuxième place. Ça courait pour jouer la gagne. Jusqu'à ce que Van Der Poel part tout seul. Après, derrière, tu vois qu'il est trop fort, ok. Mais, et du coup, ça me donne vraiment espoir pour Paris-Roubaix, où les mecs vont dire, on a essayé sur le Tour des Flandres, c'était trop compliqué, mais sur Paris-Roubaix, c'est possible. L'histoire montre que c'est possible. Je veux dire, Mathieu Heyman a quand même remporté Paris-Roubaix devant Tom Boonen. Donc c'est possible. Mmh. Voilà. Donc c'est moi, c'est ce qui me donne l'espoir sur le fait que si Van Der Poel se retrouve dans un groupe de contre derrière, bah, ça va pas rouler avec lui, parce que j'ai aussi espoir que les équipes d'outsiders enverront des mecs devant.
Mmh. Enzo, oui. Sur cette analyse, encore une fois, je vais te rejoindre.
Oh yes, merci. Merci.
C'est ce que je disais dans un précédent podcast avec Vincent. Si je dois partir, imaginons sur l'esprit d'un pari, et je l'ai vu, je ne sais plus où, je crois que c'était à l'étranger, donc je ne peux pas te dire le book. Dans l'esprit, pour moi, les Alpecin, on le voit sur les bookmakers, sont favoris sur la majorité des commentaires des suiveurs, des observateurs. On dit soit Van Der Poel, soit Philipsen, que Van Der Poel fera potentiellement un cadeau à Philipsen, suivant la situation de course, Van Der Poel roulera pour Philipsen, suivant une autre situation de course, Philipsen roulera pour Mathieu Van Der Poel, et j'ai envie de te dire, un doublé qui est quasi inédit, puisque six coureurs dans l'histoire se sont imposés sur Roubaix et son vélodrome avec le maillot de champion du monde. Il n'y en a qu'un qui a réussi le doublé dans la même année avec le maillot arc-en-ciel, c'était en 62, Rien van Looy, le doublé ronde Paris-Roubaix. Donc c'est un doublé qui sera quasi inédit. Est-ce que Mathieu Van Der Poel peut se priver d'un doublé comme ça? Est-ce que Van Der Poel peut se priver d'une victoire avec un maillot arc-en-ciel? Je ne sais pas. On verra suivant les situations de course, mais moi, si je devais partir sur un scénario, c'est les Alpecin qui ne gagnent pas, et je l'avais vu, il était à 2-10.
Mmh. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Bah, écoutez, moi, les gars, je vais vous rejoindre aussi, parce qu'en plus, du côté des Alpecin, il y a un problème supplémentaire. C'est que, au Tour des Flandres, on était en bloc, on était all-in derrière Mathieu Van Der Poel. Mais là, sur cette course-là, on arrive avec deux leaders. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus que six mecs, en fait, pour rouler. Donc.
On a quand même les deux plus forts du plateau. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Mais on se retrouve.
Sur ce papier, c'est normal qu'ils soient favoris. Quand tu fais fi...
Je dis mec, 5 mecs, hein, on roule à 7, hein, évidemment. Ouais.
Mais c'est logique que Van Der Poel et Philipsen soient dans les 3 premiers. On parle du premier et du deuxième de l'année dernière, et du vainqueur de Milan-San Remo, et du vainqueur du Tour des Flandres de cette année. Donc, il n'y a pas d'illogisme pur au fait qu'ils soient favoris. Après, en tant que suiveur un peu plus assidu, et connaissant ce qu'est Paris-Roubaix, c'est pas non plus gravé dans le marbre. Voilà.
Oui, disons qu'il y a des options tactiques vraiment pour la concurrence, pour essayer de déborder cette équipe Alpecin. Beaucoup plus d'options tactiques possibles que sur le Tour des Flandres, Thibaut.
Faut essayer d'anticiper en fait les coureurs qui auront anticipé justement cette trouée d'Arenberg. Et après cette trouée d'Arenberg, faut anticiper les coureurs qui vont accompagner les Alpecin et savoir peut-être être devin si un des deux Alpecin ou si les deux ne seront pas piégés dans cette trouée d'Arenberg, puisque l'approche, on l'a dit, est extrêmement tactique et j'ai envie de te dire, c'est malheureux et je le souhaite pas et j'espère que les coureurs seront plus prudents et j'espère que la majorité des suiveurs auront tort et j'aurai tort par la même occasion sur cette chicane, mais pour moi cette chicane à l'entrée va mener à une chute dans le début de peloton, et qui dit chute dans le début de peloton dit bouchon, et qui dit bouchon à l'entrée de la trouée d'Arenberg, c'est game over, c'est fini. Certes, déjà de base les écarts pouvaient se compter en minutes au bout de la trouée d'Arenberg, mais là oui, véritablement ça se chiffrera en minutes et pas en secondes.
Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est l'absence de gros favoris aux côtés de Van Der Poel. On va voir Pedersen, bien sûr, mais quand on regarde la manière de courir ces dernières semaines de Lidl Trek, on n'est pas sur du all-in bloc autour de Pedersen, et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce que je trouve très bien, et c'est la manière qui leur a permis de s'imposer sur Grand Wevelgem face à Van Der Poel. Mais tu n'as pas Van Aert, tu n'as pas Ganna, tu n'as pas Mohoric. Kung avait l'air un peu mieux, mais ça reste à prouver. Mais de toute façon, l'équipe FDJ, à part Kung derrière, je ne vois pas qui peut jouer quoi que ce soit là-dessus. Du coup, c'est un peu Van Der Poel et Alpecin contre tout le monde. Donc même s'il se retrouve dans un groupe de chasse, je ne suis pas sûr que ça roule avec lui. Encore plus s'il n'a pas d'équipier.
C'est vrai que, en plus, à mon avis, Lidl Trek, enfin notamment Mats Pedersen, il a fait son mea culpa après le Tour des Flandres. Il a pris une belle petite leçon tactique. Il a expliqué qu'il avait fait une 10 masterclass. Donc, on peut imaginer que du côté de la Lidl Trek, on va courir beaucoup plus intelligemment sur ce Paris-Roubaix 2024. Il est l'heure de passer au pronostic. Mon Thibaut, je t'écoute. Qui elle sera pour toi le vainqueur de ce Paris-Roubaix 2024?
Ce sera un vainqueur qui triomphera par l'anticipation. Ce sera un Gavier qui s'est montré. Je vais partir du côté d'Hoyer-Lafcano.
Très bien, c'est un petit peu la prophétie que tu avais depuis un petit moment. Est-ce que c'est vrai que
j'en bouge pas. Il m'a pas non plus mis un froid dans le dos quand je l'ai vu courir les précédentes classiques. Et là, comparé par exemple à des Grands Prix E3, des Ronde van Vlaanderen, il y a peut-être un peu moins de plus. Et en fait, c'est surtout sur les monts pavés où il pêchait sur les secteurs qui sont un peu plus plats, ça va beaucoup mieux. Donc sur un Paris-Roubaix où il n'y a pas du tout de dénivelé, je l'attends quand même un peu plus du côté de l'enfer du Nord.
Bon, très bien. Hoyer-Lafcano, hein, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Ne faites pas n'importe quoi, je compte sur vous. Hoyer-Lafcano, on a une cote à 81 sur le book référence. Enzo, qui va gagner Paris-Roubaix?
Alors, sur le profil, je suis entièrement d'accord. Et sur la manière de l'emporter, je suis entièrement d'accord avec Thibaut. Sauf que pour moi, ce sera Milan qui va gagner. Parce qu'en plus, il possède cette pointe de vitesse qui lui permet de s'imposer au sprint en petit comité au cas où sur le vélodrome de Roubaix. Ah, et il fait partie de la Trek qui sera offensive. Et je pense que si une carte doit partir à l'avant, que ce soit au début ou en milieu d'étape avant l'entrée dans le secteur de la Trois d'Arenberg, ce sera Milan. Pedersen restera aux côtés de Van der Poel. Parce que si Pedersen bouge, bien évidemment Kelpesine va bouger. Et Van der Poel aussi. Milan, je suis pas certain que ça fasse réagir plus que ça. Et surtout, je suis pas certain qu'ils soient en mesure de cramer une équipe entière, leur équipe entière, trop tôt dans la course.
Quand
tu vois ce que Milan a fait sur Gent-Wevelgem et sur À travers la Flandre, bon, en fait, c'est un peu comme Lafcano. Le problème, c'était surtout les monts pavés qui ne seront pas là. Mais par contre, la résistance qu'il a sur la longue distance, honnêtement, Gent-Wevelgem, il m'a épaté. Le travail qu'il a fait, du début à la fin, pour au final prendre la cinquième place de l'étape au sprint, et il ne se fait pas non plus déboîter complètement au sprint parce que c'est lui qui le lance, il est très très fort actuellement. Il est très 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 fort.
Ok, je note. Bah moi, je vais vous donner mon pronostic. Hein, Paris-Roubaix vent de dos. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Raglesian que je vais prendre en vainqueur et que je vais prendre également en top 3. Je vais également aller poser un bet sur celui que j'avais déjà pris l'année dernière et je vais le reprendre encore cette année. Je vais prendre Michael Berg. Voilà, tout à l'heure, bah, on parlait par exemple des ressorts psychologiques qu'on peut avoir quand on a un collègue qui est un petit peu dans voilà, qui traverse des moments difficiles. Donc voilà, ça peut être aussi pour Jevine, ça peut être aussi un ressort psychologique qui va le motiver. Et Paris-Roubaix, bah couru vent de dos l'année dernière, il était pas, je crois, il fait 16e, hein, il était pas ridicule, non, il fait un petit peu plus loin, il était 40e, mais je sais plus, il y a une année où il y a 2 ans, il était dans le match, je l'avais déjà vu dans le match sur Paris-Roubaix. Et moi je veux partir sur un gros rouleur, il me semble qu'il monte en confiance actuellement. Donc voilà, ce sera mes deux pronos, Raglesian et Michael Berg, vainqueur et top 3. Toi, Thibaut, au niveau des podiums, est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui t'intéressent à part Hoyer-Lafcano?
Au niveau des podiums, je réfléchissais, il faudra voir les cotes. Je ne sais pas si j'étais emballé dans l'absolu par un Mats Pedersen, mais j'avais un autre coureur et bon, bah, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on se rejoindra peut-être dessus, mais j'attends de voir à peu près la valeur de la cote pour le moment. C'était Bjerg.
Eh ben 51.
Ouais, mais en podium.
Ah, en podium. Ah, bon, en podium, on va l'avoir à...
En podium, mais pour compléter un peu ton analyse sur Bjerg, Ouais, c'est quelqu'un qu'on a vu à l'aise sur les pavés, qu'on avait déjà vu faire un travail énorme du côté du ronde pour Tadej Pogacar. On l'a vu faire de bonnes places sur Grand Vélodrome. Et on se rappelle aussi, cette année-là, il avait fait un show avec les Emirati du côté de Nain. Donc non, c'est quelqu'un qui va bien sur les pavés et sur les pavés plats. Donc ouais, non, j'en attends de très belles choses aussi dimanche du côté de Birg. C'est pas interdit que je m'autorise à poser la pièce dessus.
Bah écoute, on est
chez les UAE. Moi, il y a quand même un mec que je remarque qui a une seconde jeunesse sur les monuments là.
Nils Polite.
Ah ouais.
J'y ai pensé aussi. Ouais.
Parce que alors ok, il fait 3, enfin 4 ou 3, bref, peu importe. Mais il fait un très bon début de saison sur les classiques.
C'est vrai.
Et il fait pas 3 du ronde par hasard. Alors Bjerg était aussi là, hein, de mémoire. T'avais Morgado, Bjerg, Polit et Wellens qui a emmené. Mais Polit, il y a 5 ans, c'est top 2 du ronde. On sait que c'est une course qui convient.
C'est juste que sur les deux dernières années. Il s'est égaré aussi parce qu'il était malade.
Aussi.
Il était malade sur ces périodes-là, donc tu peux l'excuser un peu plus, tu vois. Oui, bon, il y en a certains qui en profitent pour taper sur Bora, mais il faut remettre un peu en perspective les résultats de Polite du côté des classiques avec Bora. Mais oui, non, je suis d'accord.
Moi, parce que Bjerg, l'année dernière, de mémoire, je crois que c'était un de mes top 3 pour Roubaix, parce qu'il sortait d'une campagne de classique où il avait été assez impressionnant. Je crois que c'était Gant-Wevelgem, je parle de
mémoire. Le Tour des Flandres, Thibaut avait raison. Pour Pogacar, il avait été monstrueux. Mais monstrueux.
Ouais, mais je crois que c'est sur Gant-Wevelgem ou le 3 où il avait fait une belle prestation personnelle.
C'est Gant-Wevelgem, il avait fait 6e.
6 ou 7, ouais, exact, c'est ça. Et là, cette année, on n'a pas trop impressionné là-dedans. Je t'avoue que je suis pas aussi confiant que je pouvais l'être l'année dernière au même moment, et de toute façon il m'avait un peu déçu au final sur Roubaix, hein, il avait pas fait grand chose. Donc cette année, si je devais partir sur un Emirati, ce serait plutôt Nils Polite, honnêtement.
Et parlons d'un Morgado. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Un œil sur Morgado.
Ça va être une véritable curiosité.
Quelqu'un qui déteste les pavés, il a couru que là-dessus. Et alors moi, je me demande, est-ce qu'il n'a pas insulté la sœur ou la mère du DS pour être puni et faire toutes les courses pavées du début de saison, en sachant qu'il n'aime pas ça ? Et moi, je trouve ça assez incroyable. Et surtout qu'il se démerde pas mal, le garçon. Genre, il est très très loin d'être dégueulasse.
Il est monstrueux.
Mais c'est marrant, honnêtement, c'est très rigolo. Très rigolo.
Bon, on va faire un petit tour du côté des match-up, les copains ?
Allez, c'est rigolo.
Je vais aller les voir. Je vais les découvrir.
Bon, moi, pour moi, je le dis d'entrée, hein, pour moi, Paris-Roubaix, c'est vraiment une course c'est peut-être la course la plus compliquée sur les match-up, hein, sauf à localiser un mec qui serait vraiment une burne intersidérale sur les pavés, ou avoir une info comme quoi un mec serait malade, ou il y a tellement, tellement d'impondérables sur cette course. Et puis, j'ai même envie de dire, c'est vraiment une course où j'ai presque envie de dire, un no-bet sur Paris-Roubaix, c'est peut-être quelque chose d'assez cohérent. En tout cas, faut vraiment, faut vraiment y aller. Allez, mon Thibaut, c'est parti.
Et celui-là, je peux te garantir que tu ne perdras rien. Bon, tu gagneras rien non plus. Mais si tu veux, tu peux mettre Bétiol face à Trentin.
Bah oui, parce que Bétiol le fait pas.
Non, c'est Trentin qui le fait pas.
Ah ouais, Trentin qui le fait pas.
Mais Bétiol le fait. D'ailleurs, je suis assez curieux parce que je crois que ça va être son premier Roubaix, non ? J'ai pas souvenir de l'avoir vu sur Roubaix.
Effectivement.
Attends, je vais regarder sur les internets. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu Bétiol sur Roubaix.
Bah, il y a aussi Pipo Ganna qui est proposé à 26.
Oui, mais toujours il sera remboursé.
Il l'a jamais fait. Oui, bah, c'est pour ça, je te dis. Un bon pari, c'est un pari que tu ne perds pas. Paris-Bétiol face à Trentin.
Ça, c'est sûr, on va pas parier.
Tu gagneras rien, mais tu ne perdras rien.
Bah, du coup, je suis assez curieux parce qu'il tient quand même une super forme, Bétiol. Même si je pense que sa plus-value est plus sur les monts pavés que sur le pavé en lui-même, honnêtement. Mais ça reste un excellent rouleur. Hein. On l'a vu tenir tête à 4 Bora sur Milan-Turin. On sait qu'il est capable de tenir. Mais sur du pavé plat, est-ce qu'il a la puissance comparée à des gabarits peut-être un peu plus imposants ?
Alors attention, on n'en a pas parlé. Pavé plat, mais aussi pavé gras.
Il est mouillé.
Ouais,
il a énormément plu. Là, j'y suis actuellement, là, dans le Nord-Pas-de-Calais. Je suis à quelques encablures du départ de la course. Voilà, vraiment, faut s'attendre à avoir
Est-ce qu'il va pas sécher entre temps? Parce qu'on sait qu'il fait 25 degrés samedi. Hein.
Est-ce qu'il va repleuvoir d'ici dimanche ou pas? Même s'il pleut pas dimanche.
Je crois qu'il pleut pas. Il est censé, après, c'est censé. Hein. Pleuvoir jusqu'à demain, mais par contre après on a un week-end qui va être chaud.
Le soleil, le vent, en vrai, on sera peut-être pas sur du sec, mais on sera peut-être pas sur de la gadoue.
Les prévisions ont quand même évolué. Il y a des risques de pluie quand même en fin de journée.
Le dimanche.
D'accord.
Donc, À voir. Mais honnêtement, je pense pas qu'on soit sur un terrain boueux comme les photos qu'on peut voir aujourd'hui juste après la pluie.
Ouais, mais ça va rester quand même un pavé un peu plus technique.
Oui, non, ce sera pas de la poussière comme on peut voir sur certaines années, mais ce sera pas de 2021 non plus, je pense.
Alors, au niveau des match-up, il y en a peut-être un. Il y en a un qui a bien préparé son histoire, qui avait fait le show l'année dernière, Lawrence Rex, qui est proposé face à Max Walscheid. Alors, Max Walscheid, c'était mon favori il y a 2-3 ans quand il avait gagné le Grand Prix de Denain. Il était à la Cofidis à ce moment-là, il volait littéralement. Et derrière, il s'est cassé la gueule et il a pas fait. Il n'a pas fait Paris-Roubaix et j'ai l'impression que depuis, il n'a jamais véritablement retrouvé son niveau. Lawrence Rex, je ne vais pas le prendre en top 3, mais je ne serais pas surpris. On est peut-être aussi conditionné parce qu'on l'a écouté dans Radio Peloton. Mais Thibaut, moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment bien, bien préparé son coup.
Honnêtement, j'ai tendance à te dire que j'aime pas aller vers les match-up en dessous de 2, mais quand je mate la liste des match-up, s'il y en a un qui me tape dans l'œil, c'est plus lui. Je mettrais à l'heure actuelle et au vu de ce qu'on en voit, Lawrence Rex, j'ai pas envie de dire ça, mais large favori, quoi.
Ouais, je
l'aurais match-up, hein.
Je l'aurais plutôt mis. Après, Walscheid, c'est aussi un mec qui passe bien les pavés, mais.
Ouais, mais dans l'esprit, je le mets potentiellement à la même valeur que, tu vois, là, actuellement, on a l'Hispolyte à 1,44 face à Lampart à 2,65. Walscheid, je te le mets à 2,65, aisément.
Oui. Bah, écoute, on va rajouter ça. Je vais rajouter ça dans ma liste de bêtes. Lawrence Rex devant Maximilian. Walscheid. Bon, bah, écoutez, les gars, je crois qu'on a fait un beau petit tour de ce Paris-Roubaix 2024.
On peut donner quelques autres petits noms intéressants quand même là. On n'a pas.
Ah bah vas-y, vas-y Enzo, là, pour ceux qui peuvent jouer à l'étranger, éventuellement des top 6, des top 10. Voilà, quelques idées, petite liste de courses.
Bah, honnêtement, franchement, en l'absence de Pipo Ganna, moi j'ai hâte de voir
Darling et
peut-être chez Phil. C'est pas encore annoncé, mais j'ai vu des rumeurs comme quoi il pourrait être aligné. Là, les deux. Alors chez Phil, j'ai un petit peu déçu de son début de saison. Sur le round, ça allait beaucoup mieux. Hein. Il fait un top 5 ou 6, je crois. J'étais un petit peu déçu avant ça. Mais pour moi, la doublette Sheffield de Tarling, je les attends fort. Hein. Mmh. Je les attends fort. Que Roubaix, Tarling, à l'image de Ganna, pour moi, dans quelques années, c'est un potentiel vainqueur. Là, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Et j'ai surtout l'impression qu'il n'a pas, pas les capacités de démarrage ni de sprint nécessaires encore pour surprendre son monde. Mais je suis assez curieux. L'année dernière, il finit au-delà de la limite de temps, mais parce qu'il y avait eu des chutes, il était retardé, enfin bref, c'est un peu la merde.
Il a fait l'effort de le finir.
Mais il a fini. Il a fini, et surtout avant ça, c'était le seul des Ineos qui avait fait la reco complète avec Pipo Ganna. Et Pipo Ganna avait été assez impressionné par le gamin, qui ne devait pas le faire l'année dernière, d'ailleurs, Paris-Roubaix. Et au final, il avait été aligné dernier moment. C'est pour ça qu'il avait fait la reco avec Ganna dernière minute. Et Ganna avait dit qu'il était plutôt impressionné. Et on rappelle qu'il avait 19 ans à l'époque.
Est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose?
Ah bah t'as tous les droits, Thibaut.
Vas-y, ça dépend. Attends, ça dépend si tu parles de contre-la-montre entre Ganna et Tarling.
Non, c'est pas du tout ça. C'est juste un jinx. Et je vais dire que je suis totalement d'accord avec toi, Enzo. Je pense que c'est pas son année. Tout en ayant à l'esprit que vous l'ayez à l'esprit, j'ai Tarling à 300 depuis février.
Ah. Ça, c'est beau, ça. Quand tu as vu qu'il y avait du vent d'eau, tu t'es dit ah. Parce que pour moi, en tout cas, là où je vous rejoins, c'est que pour moi, cette année, ça sera un Paris-Roubaix pour un rouleur.
Ouais, c'est quand j'ai vu que Pipo Ganna n'était pas présent.
D'accord.
À partir du moment où j'ai vu qu'il n'était pas présent, je me suis dit, il y a une porte ouverte pour Tarling, parce que c'est à peu près le même type de profil que Pipo Ganna. Et quand tu vois comment Pipo Ganna tabassait, martyrisait les pavés, honnêtement, j'ai de bons espoirs pour Tarling. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt quand même.
Moi, le seul truc qui m'inquiète, en tout cas pour cette année, c'est la connaissance de savoir comment rouler sur le pavé. Voilà, c'est parce que c'est quand même un métier. Je sais pas jusqu'à quand il faut remonter pour voir un vainqueur sous les 23-24 ans d'un Paris-Roubaix. Tu vois. Mais pour moi, c'est pas le genre de course que tu gagnes en novice. Même si c'est loin d'être un novice, mais vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, après, j'ai envie de te dire, avec les générations qu'on a, c'est des théories
ouais,
que je commence
quand
à
même.
Écarter de plus en plus. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, hein, dans l'absolu. Mais, de toute façon, ouais, ce ne sera pas tant une affaire d'expérience que surtout de malice et d'anticipation. Maintenant, il faudra voir comment les Alpecines vont essayer de gérer l'affaire et surtout gérer le feu qu'ils auront au cul à certains moments, puisque je pense qu'ils l'auront, et ils l'auront de manière beaucoup plus prononcée qu'ils l'ont eu sur le Ronde. Et faudra être extrêmement malin. C'était sur les Alpecines.
Ouais.
Ok, je vais reprendre. Du côté des Alpecines et de Mathieu Van Der Poel et de Jasper Philipsen, faudra être au-delà d'être très intelligent, faudra être très fort physiquement pour aller glaner la victoire.
Ah bah ça c'est sûr. Là c'est.
Ouais. Et d'après vous, un Tarling qui essaye de prendre l'échappée matinale, ça le laisse ou ça le laisse pas?
Ça le laisse.
Pour moi ça le laisse. Hein. Ouais. Pour moi ça le laisse. Tu peux pas. En vrai, il va y avoir quasiment que Alpecines qui n'essaiera pas. Peut-être pas d'envoyer de mec à l'avant. Et est-ce qu'ils peuvent se permettre de rouler sur 10 mecs différents? Parce que si tu roules sur Tarling, tu roules sur Milan, tu roules sur la moitié de la Trek, tu roules sur la moitié de la Ineos, tu roules sur la moitié de la Jumbo, t'as pas les hommes pour, parce qu'il va quand même falloir te garder des mecs pour aider Van Der Poel, qui ne pourra pas rentrer tout seul une fois que le bon coup sera parti.
Les gars.
Parce que quand tu regardes en 2021, pour moi c'est l'exemple parfait. Que ce soit Moscone ou Vermeersch, on est loin des cracks suprêmes du peloton. Et pourtant, t'en as un qui aurait dû gagner et l'autre qui aurait fait podium en étant parti dans l'échappée matinale. Et on n'est pas sur les cracks suprêmes du peloton.
Après, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de terminer un podcast où on parle d'un monument et on n'a pas encore dit un mot de la Visma? Normal quoi. Christophe Laporte, on l'a appris il y a quelques heures.
Ouais, mais Christophe Laporte, il y a des points d'interrogation. Dylan Van Baarle, on a vu un peu mieux sur le Ronde, mais on l'a vu juste quoi, sur une attaque, après invisible. Si, on a vu son vélo qu'on a essayé de donner à Tish Benoit.
Ah, Benoit.
Donc je suis un peu plus de mauvaise langue. Mais Tish Benoit, c'est pareil. Est-ce que t'en attends grand chose du côté du Ronde? Je suis pas certain. Et Matteo Jorgensen du côté de Roubaix, son meilleur résultat c'est 65e sur des pavés un peu plus plats. J'ai du mal à y croire. Donc oui, c'est vrai que la Visma, mais c'est un peu ce que je voulais te faire comme transition tout à l'heure en te parlant de ces incidents. Tu le vois depuis le début de saison, les Visma ne sont pas épargnés, et même Jonas Vingegaard, qui l'était jusqu'à présent tout au long de sa carrière, vit son premier gros incident, sa première grosse blessure. Et tu le vois, hein, dans le cyclisme, tout va très vite. L'année dernière, c'est une équipe qui dominait de bout en bout, du début de la saison jusqu'à la fin, sans vraiment trop avoir de problèmes. Et là, c'est l'équipe la plus malchanceuse du peloton. C'est aussi là où on peut revenir sur ces affaires de transfert où on râle un peu sur les coureurs, sur leurs choix. Mais tu le vois, on peut pas non plus leur en vouloir quand tu sais qu'une carrière, ça peut aller très vite et que le vent peut souffler dans la direction inverse dès l'année d'après.
Bah oui, j'allais citer l'exemple d'Egan Bernal. Hein. On oublie un petit peu vite que Egan Bernal, il y a encore 3 ans, on le voyait empiler 10 grands tours dans sa carrière. C'était c'était voilà, on pensait que on était parti peut-être pour quand il gagne en 2019, on pensait qu'on était peut-être parti pour une longue série de Tours de France. Et même Chris Froome, avant la chute de Roanne en 2019, il était archi favori pour gagner un cinquième Grand Tour. Et s'il claque ce cinquième Grand Tour en 2019, bah peut-être aussi qu'il peut en claquer un sixième en 2020. Il était sur les grands tours, il était une jambe au-dessus de tout le monde. Donc t'as raison Thibaut, hein, ça va, moi j'y pense souvent, hein, ça va à une vitesse intersidérale. Pour l'instant, Jonas Vingegaard, sa carrière c'était du papier à musique, il n'y a jamais eu d'impondérable, hein, il n'a jamais connu ça, même de manière minime, il était tout le temps bien protégé, toujours à l'abri, mis à l'abri par ses équipiers. Donc bah forcément, quand tu te blesses jamais, ça favorise une progression linéaire. Quand tu te prends un pet, bah ça ralentit un petit peu la progression. Et puis d'ailleurs, bon, ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast. Mais là, on voit qu'il a. T'allais dire Enzo, Thibaut.
Non, j'allais te laisser finir, mais j'allais rebondir après. T'inquiète, je laisse finir ta phrase.
Non mais ouais, j'allais rebondir, mais est-ce que alors là visiblement on serait sur le même bilan que Wout Van Aert. D'ailleurs Wout Van Aert, moi j'ai halluciné, il a, Thibaut, c'est ce que tu avais publié, Van Aert il a déjà repédalé.
Marché,
non, il n'a pas pédalé, il a marché.
Ah, d'accord,
marché,
ça me rassure.
Il a publié une activité de Strava où il a mis quoi, il a fait 4 km en 50 bornes en 1 heure, je crois. Ouais.
Ouais, bah il remet le corps en route, ouais, ça c'est
une bonne marche. Honnêtement, c'est une bonne marche pour un mec, ouais, qui vient de se faire la clavicule, les côtes, etc.
Ah ouais, il y en a qui resteraient chez eux et qui bougeraient pas, tu vois. Et lui, il fait l'effort de vouloir aller de l'avant. Non, il a un mental à toute épreuve. Hein.
Je marche moins vite pour aller au bureau, moi perso. Hein. Après, je suis pas pressé d'y aller.
Wout Van Aert, on a peut-être un petit peu de recul maintenant. On estime qu'il peut reprendre l'entraînement à quel moment, on a une idée ou pas?
J'en ai aucune idée.
Ça, hein, je suis pas son mec.
Je veux pas m'avancer là-dessus.
C'est surtout les côtes, parce que la clavicule, quand tu vois que, par exemple, Florian Sénéchal a repris, repris la compétition après 2 semaines, tu peux avoir des espoirs pour sa clavicule. On sait, c'est des coureurs aussi, ils guérissent un peu plus vite que le commun des mortels. Mais, et puis ils sont extrêmement bien suivis, hein, de ce côté-là.
Mais, oui, puis la clavicule, tu peux t'entraîner un peu aussi, tu peux faire du home trainer. T'es pas...
Pour les rouleurs.
Voilà.
Après, je
pense que c'est un peu plus compliqué avec les côtes, donc c'est surtout ça en fait.
Ouais. Non, et puis les côtes, ouais, c'est pareil. Après, ça va plus être éviter les chocs, donc l'home trainer, c'est pas non plus, je pense, pas si dérangeant que ça. Mais par contre, tu vois, genre ce qui va être course à pied où ça met le corps à rude épreuve et surtout le haut du corps aussi, hein, parce qu'il y a pas que tu cours pas qu'avec les jambes. Et puis le vélo en extérieur, tu risques potentiellement des chutes, donc une chute sur les côtes au moment de la consolidation, ça est un peu plus compliqué, tu vois.
Mais pour rebondir sur Vingegaard, les blessures qu'il a semblent être des blessures qui lui permettent de revenir à la compétition dans un futur assez proche. Mais moi, c'est sur l'aspect psychologique que je vais me poser des questions. On en parlait un petit peu tout à l'heure par message privé. Vingegaard, c'est un papa. On sait qu'il est très proche de sa famille. C'est le gars, dès la fin de chaque étape du Tour de France, on le voit toujours au téléphone appeler sa femme. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui a la famille dans le sang. Est-ce que cet accident, qui est de mémoire le plus grave qui lui soit arrivé, est-ce que ça peut pas le bloquer? On sait que c'est un excellent descendeur, meilleur que Pogacar, on l'a vu. Est-ce que cet accident va pas le bloquer psychologiquement? Est-ce que à chaque descente, maintenant, il n'aura pas l'image de sa fille en tête? On ne sait pas. Je crois que c'était Nibali qui avait dit après sa chute sur les VO que ça l'avait un peu refroidi. Qui n'était pas une chute mortelle, hein. Il s'était fait la clavicule comme beaucoup de coureurs se la font, mais qui derrière était peut-être moins casse-cou dans les descentes, pourtant à son époque un des meilleurs descendeurs du monde. Avec Vingegaard, quand on sait le type d'homme qu'il est, est-ce que ça ne peut pas avoir un vrai impact sur sa manière de courir désormais?
Bah, on l'a vu avec Alaphilippe, hein, il y a eu un avant et un après Liège-Bastogne-Liège. Hein.
Bien sûr. Donc je me pose la question parce que
après en jeune il s'était fait la jambe, hein, C'est pour ça d'ailleurs qu'il a aucun résultat dans les catégories de jeunes. Il avait eu un gros pet, hein, étant jeune.
Non, je parlais vraiment de chez les adultes,
oui.
Chez les pros. Tu vois. Donc je sais pas et je me pose cette question parce que comme on a le résultat médical de ces blessures, je pense qu'il peut remonter bientôt sur un vélo et que sa vie n'est pas en danger. Donc je me permets de me poser cette question. Voilà.
Non. Après, je peux refaire un hors-sujet et répondre à la question d'Enzo sur le plus jeune vainqueur de Paris-Tour. Qu'est-ce que je dis ? Paris-Roubaix, hein, si tu veux. C'est Albert Champion, en 1899. Il avait 20 ans et 365 jours. En sachant que Tarling a 20 ans et qu'il les a eus le 15 février, ce serait le vainqueur le plus jeune de l'histoire de Paris-Roubaix.
Ah, ça serait dingue.
Alors, c'est
après-guerre, c'est Eddy Merckx.
Quel âge il avait ?
Eddy Merckx, il avait 22 ans et 295 jours. Puis après, il faut remonter à Bounen en 2005, qui avait 24 ans.
Ouais, non, mais c'est une course 24. Qui demande de l'expérience. C'est
179 jours, ouais.
Ouais, mine de rien. Là, je disais 23-24 ans, mais t'en as que, en gros, 24 ans au moins, il n'y en a que 3 qui l'ont fait, quoi.
Ah non, il y en a plein.
Oui.
Oui, alors, après-guerre.
Ouais, d'après-guerre, il n'y en a pas beaucoup. C'est 24 ans au moins, bah c'est simple. D'après-guerre, il y a Bonnen et
Merckx.
Bonnen, Forestier, Merckx.
On a plus que ça.
Roger de Vlaminck. Allez, et Eddy Merckx. Après, tu rentres sur les 25.
Ok. Bon. Donc, parfait. Ouais, non, c'est. Mine de rien, même si le vélo et le sport en général évoluent beaucoup et tend à se jeunifier, je sais pas si ça existe, on fout.
Il y a des courses qui demandent de l'expérience, de toute façon. Il y a une guerre de placement, il y a une connaissance du parcours.
Et on parle beaucoup de chance sur Paris-Roubaix, et je vais un peu faire mon relou, c'est pas qu'une question de chance. Il faut savoir rouler sur les pavés. Quand tu regardes Ghana, il y a 2 ans, je crois, il se tape 3 crevaisons. 3 crevaisons, pourquoi ? Parce qu'il roule sur le côté. Alors après, il revient facilement parce qu'il est très fort. L'année dernière, il roulait beaucoup moins sur le bas-côté, beaucoup plus sur le haut du pavé. C'est plus difficile, mais tu évites beaucoup de problèmes. En un an, il avait appris de ses erreurs. Alors, il n'avait pas la capacité de l'emporter l'année dernière parce que tu le voyais à chaque sortie de secteur pavé, obligé de relancer comme un malade parce qu'il prenait des petits écarts. Il n'avait pas ce punch nécessaire. Mais par contre, sur la manière d'appréhender et de rouler sur le pavé, il avait fait un vrai bond de qualité grâce à l'expérience emmagasinée sur les années précédentes. Ce que Tarling n'a peut-être pas, à moins d'être un des jeunes qui écoute les plus vieux. Dire, s'il te plaît, ne roule pas sur le bas-côté, roule sur le haut du pavé, même si c'est dur. T'as les qualités.
Bon, on suivra en tout cas les aventures de Joshua Tarling. Bon, je crois qu'on s'est fait un beau podcast, les gars.
Oui.
Ouais, après, on pourrait aller encore plus loin parce qu'on n'a pas cité le pauvre Jorgensen non plus.
Oui.
Si, je te l'ai cité.
Son nom a été cité. Voilà.
Oui, je te l'ai cité comme quoi, non, je ne le voyais pas faire grand-chose.
Ouais, mais après,
Il a été cité.
Mais sur le Tour des Flandres, on était d'accord, toi et moi, Thibaut, et je crois aussi Vincent, je comprenais pas pourquoi les gens en faisaient autant un potentiel favori. Même pour un podium, j'avais du mal à voir dans quelle situation de course il pouvait se retrouver à faire un podium tout aussi fort qu'il soit. Il n'a pas les capacités, que ce soit en termes de punch ou de sprint, de s'isoler ou de remporter un sprint en petit comité sur un podium. Par contre, j'étais très étonné de le voir exploser complètement. Ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Un top 10, oui. Finir, exploser comme il a explosé, je n'aurais pas été jusque-là si j'avais dû parier dessus.
Mais on n'a pas parlé, par exemple, on aurait pu parler de coureurs qui sont habitués. Tu l'as cité, Nils Polite, on aurait pu citer John de Galkob, qui malheureusement l'année dernière était malchanceux. Mais par contre, est-ce qu'on peut mettre sur la table, vu qu'on parle quand même de Philipsen comme étant un des grands favoris, son adversaire principal au sprint, qui a montré de très belles choses récemment sur les classiques pavés, est-ce qu'on peut mettre sur la table un Tim Merlier dans l'équation ?
Son adversaire principal au sprint, c'est Jonathan Milan, et il l'a poutré 2 fois sur le Tirreno Adriatico. C'est tout ce que j'ai à dire.
Mais moi, je pars plus sur
Pour parler de Berlier, je suis assez curieux, honnêtement, je sais pas trop.
Moi, j'y crois pas.
C'est une curiosité. Je me pose la question. J'irai pas y mettre un copec, mais au vu de ce qu'il nous a démontré, et puis il avait une force sur le round assez surprenant à mon sens.
Après, cette histoire de Vando, je pars quand même sur un Paris-Roubaix pour rouleur. Pour grosse
ouais, pareil, bah moi, je, dans l'esprit, dans ces mecs qui se sont montrés, qui ont les qualités intrinsèques, pour moi, les trois noms qui me viennent en tête et qui ressortent, c'est des mecs qu'on a vus, Oier Lascano, Lorenz Rex et Abrahamsen.
Oui,
Abrahamsen, ça c'est vrai qu'il a essayé de ressortir hein, sur le Tour des Flandres, il a tenté. Hein. Ouais, ouais. Il avait Axel Lorenz dans la roue, mais il était encore là.
Non, mais lui, je suis quasiment sûr qu'il fera en action et que ce sera un acteur de Paris-Roubaix. Maintenant, est-ce que j'irai mettre une pièce? Non, évidemment pas. Mais je suis curieux de voir.
S'il y a une course sur laquelle Abrahamsen a vraiment une chance d'aller loin, vu le moteur qu'il semble avoir, c'est typiquement Paris-Roubaix.
Ah oui.
Oh. Genre vraiment, s'il est à l'avant. Attention, parce que le mec, il n'a pas l'air de s'écrouler. S'il s'est écroulé, c'était peut-être plus dans les monts pavés, où on l'a senti peut-être un peu plus fléchir. Mais sur le pavé en lui-même, je n'ai pas l'impression que ce soit un gros problème. Et la distance n'a pas l'air du tout d'être un problème.
C'est un nom, dans tous les cas, je le dis, du côté de Cyclimit ou de Cycling App, sur mes fantaisies, que je vais prendre. Ça, c'est sûr et certain.
Je comprends.
Eh ben, on note. Parfait, parfait. Enzo, ta preview sera retrouvée sur ton site internet The Big Gear, évidemment.
Yes, je pense demain soir, si j'ai le temps de corriger un petit peu toutes les fautes d'orthographe, quasiment tout est prêt.
Bon, et Thibaut, on n'oublie pas bien évidemment de s'abonner à ton compte Twitter, ton compte X, Thibaut Chambre, où voilà, tu seras là pour suivre ce Paris-Roubaix 2024. Et voilà, tout au long de la journée, on te verra tweeter et rebondir sur la course.
Exactement, comme d'habitude, de bonne heure, de bonne humeur et surtout pour balancer quelques petites conneries, comme d'habitude.
Et
j'en balance plein des saucisses aussi. Hein.
Et bah, très très bien. On se retrouve la semaine prochaine les garçons ?
Ouais, ça marche.
Allez, ça roule. Il y aura pas de podcast hein, pour la suite et la fin du Tour du Pays Basque. Voilà, je vous informe, je vous passe l'info, et puis on essaiera de se caler. Bah, la flèche Brabanson, par exemple, la semaine prochaine, ça peut être sympa.
Oh, allez. Oui. J'en dis pas plus. Vous savez très bien pour qui je suis. Vous savez très bien pour qui je suis.
Boussato, c'est parti. Non, Enzo, tu sais très bien que c'est ton dernier, tu sais très bien que c'est ta course.
Je pense savoir également. Il y a sa sœur qui commande des courses sur Eurosport.
J'ai même pas besoin de dire son nom, vous savez très bien de qui je parle.
Mais moi, je le vois aussi sur l'Amstel, moi, Axel Laurence. Je pense qu'il va tout broyer sur les Ardennaises. Enfin, pas tout broyer, faire des très belles
partout.
Courses.
Ouais. Je le vois partout, je le vois sur les courses, je le vois dans mes chiottes, je le vois dans mes rêves.
Bon, bah écoute, on va arriver d'Axel Laurence alors. Bon, merci encore, mais merci à vous tous hein, pour l'écoute du coup tordu. Vous êtes plusieurs centaines à nous écouter tous les jours. Ça fait méga plaisir. Ciao les amis, ciao ciao.
Salut tout le monde.
Ciao ciao.